Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors, le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, « C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas, car il est écrit, « Il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus, nous croyons que tu es présent au milieu de nous. Nous croyons que tu es ressuscité, que tu portes l'Esprit Saint. Seigneur, dispose nos cœurs à accueillir ta parole. Souffle sur nous ton Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, si quelqu'un vous demande « Qu'est-ce que le carême ?» Qu'est-ce que vous répondez? Si on vous demande, dis-moi ce que c'est que le carême. Je suis persuadé que beaucoup diront, c'est un temps où on fait des efforts pour changer, pour prier, pour se priver de certaines choses. En ce moment, à la cathédrale de Rennes, il y a tous les catéchumènes du diocèse avec l'archevêque. Ils sont rassemblés pour recevoir l'appel décisif. Parmi eux, il y en a quatre jeunes adultes de notre paroisse qui vont être baptisés à Pâques. Alors évidemment, pour eux, le carême, comme pour tous les catéchumènes, c'est le temps de préparation à la fête de Pâques où ils seront baptisés. Peut-être que les catéchistes enseigneront, mais le carême, c'est une montée vers Pâques. Si on interroge les médias, pour eux, on ne sait plus ce que c'est que le carême, mais on sait ce que c'est que le ramadan. Alors, qu'est-ce que c'est que le carême pour les médias? C'est le ramadan des catholiques. Les plus âgés d'entre nous, peut-être penseront-ils que on ne sait plus très bien ce que c'est que le carême, parce qu'autrefois c'était clair. C'était peut-être difficile, mais on savait ce qui était permis et ce qui était interdit pendant le carême. On savait ce qu'il fallait faire et ce qu'il était interdit de faire. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le carême? Alors tout ça, c'est vrai, mais que dit l'Évangile? L'Évangile nous dit que le carême, c'est le temps où nous allons rejoindre Jésus au désert. Et en ce premier dimanche de carême, c'est ça l'unique question qui nous est posée. Est-ce que tu es d'accord d'entrer au désert avec Jésus, quelle que soit la forme que prendra ce désert? Est-ce que tu es d'accord d'accompagner Jésus au désert? Et vous le savez, dans la Bible, le désert, c'est d'abord ce lieu où Dieu parle au cœur de son peuple, le lieu où il vient séduire son peuple, le lieu des fiançailles, pour reprendre le langage de la Bible. Mais peut-être que le carême nous effraie un peu, parce que le carême, c'est aussi le lieu de la tentation. Et Jésus est allé affronter les tentations des airs, justement, pour nous offrir la victoire, pour nous offrir la liberté. Au désert, Jésus a montré qu'il ne se laisse séduire ni par la gloire, ni par l'attrait des richesses. Il a montré qu'il ne se laisse pas tromper par de fausses interprétations d'Écriture. Il a montré qu'il était libre et qu'il nous proposait cette liberté. Alors, écoutons bien cet appel à entrer au désert avec Jésus. Au désert, Satan propose d'abord à Jésus de transformer des pierres en pain. Et si nous avons en mémoire la prière du Notre Père, nous comprenons bien ce qu'est cette tentation. Jésus nous demande de dire chaque jour, « Père, donne-moi le pain de ce jour. » Et qu'est-ce que nous propose Satan? De refuser de dépendre de Dieu pour les biens matériels, pour notre nourriture. Alors, ce que nous propose Jésus, c'est de nous rendre notre liberté face aux biens matériels. Si j'accepte de dépendre de Dieu, si je sais que c'est Dieu qui s'occupe de moi, alors je suis libre. Alors je peux rendre grâce, alors je peux partager, alors je peux donner. Mais si je pense que la providence de Dieu n'existe pas, si je pense que Dieu est très très loin dans son ciel et qu'il n'a pas les yeux tournés vers moi, qu'il n'est pas à l'affût pour m'aider, pour me soutenir, alors je vais accumuler les biens matériels, assurer ma sécurité, alors je deviendrai de plus en plus incapable de donner. Il me restera une toute petite piécette à donner. Il me sera aussi impossible de rendre grâce. Je suis étonné de voir combien dans les familles chrétiennes on oublie la bénédicité qui est la première chose qu'on doit apprendre aux enfants. Nous recevons de Dieu, nous rendons grâce à Dieu, nous disons merci. Le jeûne, c'est un outil qui nous est proposé, non pas pour être complètement transformé, mais pour commencer à changer d'état d'esprit vis-à-vis des biens matériels, pour nous décontaminer de ce que notre société de consommation essaie de nous faire croire. Ça nous permet de faire l'expérience du manque et au sein de cette expérience, de nous tourner vers Dieu. Parce que le jeûne que nous enseigne Jésus, c'est l'homme ne vit pas seulement de pain, et il nous laisse finir la phrase, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le jeûne prend son sens quand le repas est remplacé par un temps ensemble pour méditer la parole, pour écouter la parole. C'est le sens des fraternités de carême. Nous manifestons notre désir de nous nourrir de la parole, en nous retrouvant chaque semaine pour un temps. Chez les premiers chrétiens, quand on parlait de jeûne, ça signifiait automatiquement rencontre communautaire, prière et enseignement. Alors, si j'ai décidé de renoncer au chocolat ou aux cigarettes pendant le carême, que je n'oublie pas de mettre à la place la méditation du chapelet, la lecture de la parole de Dieu. La deuxième tentation à laquelle Jésus est affronté, c'est celle de l'adoration de Satan et c'est celle donc de l'adoration des idoles. Prosterne-toi devant moi, demande Satan Jésus. On pourrait traduire par prosterne-toi devant moi qui suis caché derrière les idoles que je te présente. Et l'idole que nous faisons, l'idole, c'est ce que nous faisons passer avant Dieu. Il y a une sainte qui est notre exemple à tous, Sainte Jeanne d'Arc. Quand on lui a posé la question, elle a répondu « Dieu premier servi ». Eh bien, chaque fois que nous mettons quelque chose d'autre en premier, notre travail en premier, nos loisirs en premier, notre santé en premier, même notre famille avant Dieu, quelle est la conséquence ? Quand Dieu n'est plus premier servi, ce que nous servons est mal servi. Si je veux mettre mon travail en premier avant Dieu, le travail sera mal servi. Au lieu de m'édifier, de me construire, au lieu de m'associer à la création, il va me détruire. Il va détruire ma famille. Il va détruire mes projets. Si Dieu n'est pas premier servi, tout ce que j'adore sera mal servi. Il n'y a pas que l'argent qui est une idole, même si souvent derrière l'idolâtrie, il y a l'argent. La troisième tentation, c'est le refus de faire confiance à Dieu, de dire oui à sa volonté. Pour prendre une comparaison, je dirais que dans ce monde, l'homme est un peu comme quelqu'un qui doit traverser un désert. Il lui est proposé un guide extraordinaire, un guide qui connaît parfaitement le désert, qui sait par où passer pour aller aux différents points d'eau. Ce guide, c'est la volonté de Dieu. Et si je dis oui à la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, je suis en sécurité. Mais si je dis non, je n'ai pas besoin de ce guide, je serai mon propre guide. Je ne vais pas marcher de nuit dans l'obscurité de la foi, je vais marcher en plein soleil. Je vais non pas marcher par les routes qui me sont proposées, mais je vais fixer moi-même ma route. Je ne vais pas vers les puits que m'a préparé Dieu. Je prends ma petite gourde. Alors, si j'essaie de traverser seul le désert, c'est vers les difficultés et la catastrophe que je me trouve. Alors, comment dire oui à la volonté de Dieu ? Comment vivre des petites mortifications qui me font aimer la volonté de Dieu ? Peut-être que c'est la chose la plus facile, parce que il suffit de dire oui à ce qui est et de me laisser déranger. Voilà. Je me laisse déranger quand on me demande un service. Je me laisse déranger quand les choses ne font pas comme je pensais qu'elles devaient aller. Je me laisse déranger, j'accueille ce qui est, je souris et j'essaie de pratiquer la charité. Alors vous allez me dire, oui, mais tout ça c'est trop. Vous avez raison, il faut choisir. Il faut choisir un axe et te dire, eh bien, je veux entrer au désert avec Jésus par telle porte. Est-ce que c'est par la porte de la liberté vis-à-vis des biens matériels? Est-ce que c'est vers la porte de mettre Dieu à la première place? Est-ce que c'est par la porte de dire oui à la volonté de Dieu? C'est à nous de choisir. Mais c'est maintenant que nous décidons de ce que nous ferons de ces semaines de carême. Nous pouvons demander à Saint François de Sales et à Sainte Jeanne de Chantal de prier pour nous, de nous éclairer, puisqu'ils nous ont appris à vivre toutes choses dans l'amour et dans la charité. Je parle de Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal, puisque ce sont les reliques de ces deux saints qui ont été placées dans l'autel qui a été consacré dimanche dernier par Monseigneur Dornelas. Amen.